Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Un moment de littérature émancipatrice. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'un moment de littérature émancipatrice consacré à la littérature de combat. Au cours de cette 7e émission de la saison, nous retrouverons les rubriques habituelles, un livre, un auteur, la chronique cinéma de Paul Yabastre, parole de libraire avec Jean-Paul Brussac dans sa librairie olympique et la rubrique art de Sarah Vellu. Et c'est Gérard Clabé qui réalise l'habillage musical de la rubrique un livre, un auteur et toute la technique de l'émission sur la clé des ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Un livre, un auteur. Aujourd'hui, quel est le roman et l'auteur dont il sera question ?
Nous vous proposons un roman de Fabian Martinez-Sicardi, paru en 2024 dans sa traduction française, édité chez Liana Lévy, Les hommes les plus grands. Le récit dénonce les conséquences de la colonisation en Patagonie, la région la plus australe d'Argentine.
Résumé. Au début du XXe siècle, en Patagonie, Manuel Palacios, prêtre salésien, métis, d'une mère indienne, Tehuelche, et d'un père espagnol, hanté par ses rêves et ses origines, consacre sa vie à dénoncer la tragédie de son peuple. Il accumule les recherches de tous ordres littéraires et scientifiques pour faire connaître une nation colonisée et humiliée et qu'il estime élue de Dieu.
Pour raconter, voire d'une certaine façon rendre compte de cette histoire de quête quasi mystique de ses origines, de dénonciation d'un colonialisme quasi génocidaire, l'auteur, Fabian Martinez-Sicardi, choisit le genre de l'autobiographie fictive. Le narrateur, Emmanuel Palacios, orphelin de son père espagnol, est arraché à sa mère indienne Tehuelche à l'âge de 6 ans pour entrer au séminaire où il subit les premières discriminations en tant que métis.
Je suis de ce peuple. C'était bientôt l'heure du déjeuner, et après avoir écuré une tonne de casseroles, épluché une montagne de pommes de terre, éplumé 3 poules, je me dirigeais vers les toilettes pour faire partir l'odeur de volaille, quand je vis un garçon adossé au mur. Les couloirs étaient peints de 2 couleurs. La partie inférieure, d'1,80 m ou plus, était couverte d'une laque marron foncé, et celle du haut était blanche comme le plafond. Aucun des élèves que j'avais vus contre ce mur ne dépassait la ligne entre la peinture brune et la blanche. Or, la tête de ce garçon allait bien au-delà, ce n'est pas le seul détail qui attira mon attention. Cet élève était un Indien, bien plus Indien que moi, et à en juger par sa stature, il ne pouvait s'agir que d'un Tehuelche. Un peu plus tard, je le retrouvais assis au bout d'une des longues tables du réfectoire, les yeux baissés sur sa soupe qu'il observait tout à fait sérieusement. Je posais mon assiette devant la sienne. De près, ses traits étaient fascinants. Il possédait toutes les caractéristiques du peuple Tewelch répertoriées dans les livres. Nul ne l'égalait par la taille, ce qui corroborait le fait qu'on considérait les siens comme les hommes les plus grands du monde. À cela s'ajoutait un teint cuivré, des cheveux raides et épais, des yeux petits mais pénétrants, un nez rond, des pommettes saillantes et des lèvres charnues. Son lignage et sa beauté en imposaient. Et j'aime à penser qu'à cet instant, la première fois que je l'ai vu, j'ai conçu l'idée, une idée infectieuse qui me pousserait des années après à me lancer dans une quête insensée, qu'un individu méritant de tels qualificatifs devait être issu non pas simplement d'une race améliorée par la génétique ou du hasard de la sélection naturelle, mais d'un peuple élu, un peuple élu de Dieu. Missionnaire salésien. L'entretien destiné à évaluer ma foi fut plus ardu, bien plus ardu que les épreuves de connaissance, l'axiome salésien étant incontestable. Croire est bon, douter est mauvais. Or, comme tout jeune homme impétueux, je nourrissais de nombreux doutes qui, avec le temps, deviendraient des certitudes que je défendrais bec et ongles, mais qu'à l'époque, compte tenu de mon immaturité, je m'appliquais à dissimuler. Je ne remettais en cause ni la Genèse, ni le jugement dernier, ni la résurrection de la chair, ni la Sainte Trinité, ne contestais pas l'omniprésence divine, ni la vertu des saints. Le recteur majeur était assis au centre d'un long bureau, presque étranglé par une soutane boutonnée à hauteur de sa pomme d'Adam. Il était le seul à porter une cape. Les six autres prêtres, installés de chaque côté, arboraient de simples soutanes noires. Au terme d'un interrogatoire de près de 2 heures, le recteur majeur tout sauta et un silence sépulcral s'abattit sur la salle. En tant que fils d'Indien et d'Européen, commença-t-il, en tant qu'homme des deux mondes et futur prêtre salésien, qu'envisagez-vous comme salut pour le peuple Tewelch ou tout autre peuple indigène de Patagonie? Quel est d'après vous le meilleur moyen de leur porter la parole du Seigneur, de les éduquer, de les civiliser, d'aider ces pauvres âmes dans le besoin à mener une existence digne? Je compris en un éclair que le recteur majeur me plaçait devant un carrefour et qu'une des voies à suivre consistait à lui dire la stricte vérité, à savoir que les Tewelch n'avaient rien d'incivilisé, qu'il n'était pas nécessaire de les éduquer et que leur seule indignité était celle que leur avaient infligée les colonisateurs en les isolant dans un espace de vie infâme. Mais je compris que ce franc-parler mettrait un terme à ma formation de prêtre au sein de la congrégation.
Le narrateur raconte donc son histoire à la première personne. Cette façon subjective à laquelle il est plus facile pour le lecteur de s'identifier, et le récit débute directement par la confession de ce séminariste possédé par ce qui apparaît alors comme un fantasme et dont il cherchera à vérifier la réalité tout au long de son existence, cette peinture rupestre d'un bison unicorne gravé dans une caverne sombre entourée par une eau lumineuse quelque part en Patagonie. L'utilisation des temps qui alterne entre le passé des souvenirs et le présent de la quête, renforce encore la proximité du lecteur avec le narrateur et rythme un récit qui est difficile de lâcher. Ainsi, le roman tient aussi de l'enquête policière. Manuel se donne comme mission de prouver que le peuple Telluèche, loin d'être ce que les colons en font, c'est-à-dire des êtres inférieurs et bornés, est en réalité riche d'une culture complexe et ancestrale et qu'il vit depuis longtemps dans ces terres de Patagonie. Les preuves de cette enquête sont d'abord la peinture rupestre de ce bison unicorne qu'il associe au mythe de la licorne et au merveilleux, comme aux écrits religieux tels que la Bible et la Torah.
Wignolentani, ropalen felefei, tani ule.
La quête.
Kwefike chesungun, lewen jouemo.
Quittant le lac, nous poursuivîmes notre chemin et moins d'une demi-heure plus tard, nous aperçûmes le Cerro de los Indios, une paroi de roches rougeâtres d'une vingtaine de mètres de haut et 1000 de long qui s'élevait au milieu d'une surface plane, sans rien qui obstruât la vue. Comme la cordillère des Andes et le portique immergé, il était entouré d'une atmosphère mystique. C'est du moins l'idée que j'en eus. Et je m'interrogeais à ce sujet. Pourquoi cette géographie t'évoque-t-elle la religion, Manuel ? Ce sont les couleurs, me dis-je. La roche rouge, le bleu foncé d'un lac, le turquoise de l'autre, la blancheur de la neige, la roche noire. Nous étions environnés de tonalités pures et vibrantes, plus encore que la vie. Quand l'homme s'approche d'une pulsion vitale aussi puissante, il ne peut songer qu'à Dieu ou à quelque chose d'approchant. Le paysage autour du Cerro de los Indios ne ressemblait en rien à celui de la rivière Lechuza, très vert et bien abrité. Là, tout était aride, exposé aux intempéries. Mais les peintures étaient similaires, des guanacos poursuivis par des chasseurs, des traces de pumas et de nandous serpentant sur la roche, des motifs abstraits de signification incertaine et des empreintes de mains, ces mains superposées désignant à la fois la présence et l'absence de l'homme. Le bison se trouvait à environ 6 mètres du sol, comme celui de la Lechuza, ce qui corroborait l'explication d'Orsini, selon laquelle les dessins situés en hauteur avaient été réalisés quand la meseta était bien plus haute. Des siècles avant l'importation en Amérique par les Espagnols, des vaches ou de tout autre animal présentant des analogies avec le bison. J'escaladai les blocs de pierre qui s'étaient détachés de la paroi pour arriver jusqu'à la licorne que j'avais vue en rêve et éveillée. Ce bel animal sauvage à la corne pointée vers le ciel. Cette fois, il était seul, sans les hommes. Les guanacos ou les flèches qui l'accompagnaient sur la peinture de la rivière Lechuza, et même si le tracé était plus noir que rouge, il s'agissait indiscutablement de la même bête.
Il lui faut donc retrouver cette peinture, ce qui l'emmène, et le lecteur avec lui, dans un périple dangereux dans la cordillère des Andes, partie de Patagonie perdue, au sein d'une nature magnifiée par une description poétique et naturaliste. Les preuves de l'importance du peuple Telluèche, qu'il compare aux Hébreux en tant que peuple élu, le narrateur les cherche aussi dans des domaines comme l'archéologie, le récit de voyage, l'histoire, la philosophie, l'ethnologie, voire même quelquefois l'ésotérisme. Enfin, la typologie des personnages permet également de considérer le récit comme un roman picaresque. Tout ce qui caractérise Manuel, son enfance dévastée, son métissage, son parcours atypique, ses interrogations métaphysiques et surtout cette grande théorie des Telluèches comme peuple élu qu'il défend envers et contre tous et tout, et dont il a fait le but de sa vie, le désigne littéralement comme un Don Quichotte moderne. Les autres personnages, essentiellement des Blancs, sont tous des colons, soit paternalistes, soit cruels et incontrôlables, tel l'Italien Orsini, revenu fasciste lors de son retour en Argentine et pillant sans vergogne les singularités du peuple Telluèche.
Les grilles de lecture du roman sont donc multiples. L'une d'elles peut être le genre historique, en effet le récit permet de connaître l'histoire tragique d'un peuple autochtone qui a subi les conséquences d'une colonisation particulièrement cruelle et mortifère. Les éléments historiques sont précis et les personnages qui ont marqué la colonisation de la Patagonie présents. Ainsi en est-il de l'Italien Antonio Pigafetta et de son récit, publié en 1525, de la première circumnavigation, une expédition entreprise par le navigateur portugais Magellan, et qui est en fait la première description de la Patagonie. C'est aussi par ce biais que l'on comprend à la fois le nom si étrange de cette région et le titre du roman qui n'est plus énigmatique à la lecture du texte. Le nom ferait référence à un géant qui était tant grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture et qui conduisit le capitaine à appeler les habitants Patagonie. Même si l'hypothèse, aujourd'hui généralement retenue, fait venir le mot « Patagon » du personnage fantastique appelé « Patagon », créature sauvage qu'affronte Primaléon en Grèce dans un roman de chevalerie publié en 1512 par Francisco Vázquez et vraisemblablement connu de Magellan et Pigafetta en raison de la grande popularité de ce type de littérature à cette époque. Dans son témoignage, auquel il est fait systématiquement référence dans le roman et que le narrateur invoque, Pigafetta met plutôt en avant le peuple Tehuelche et les valeurs qu'il porte.
Cuando en ti viene el mañanal, haré por ti el choice pour
les plus grands.
Viento llevará mi rogativo.
L'admiration déjà sans borne de l'Allemand ne connaît plus de limites. Le cerf retire sa chemise pour lui expliquer combien ses hommes sont musclés. Il gonfle ses biceps, élève les bras, saute, fait le tour de la pièce en criant les mots Telluèche dont il se souvient. Dans ses yeux, la meseta a remplacé le salon victorien et les règles arbitraires qui régissent le comportement humain ont changé. Le cerf est ravi, il exulte, car après tant de mois passés à Londres, il se languit des Telluèche, comme il ne s'est jamais langui de rien ni de personne, et relater ses expériences à Zwecker est le plus beau prétexte pour retourner en Patagonie, ne serait-ce qu'en imagination. Devant cet Allemand qu'il observe, aussi étonné que captivé, il enlève son pantalon et retrouve son caleçon blanc pour figurer une chiripa. Il enfourche un cheval inexistant, tire des flèches d'inexistence avec un arc qu'il est le seul à voir, s'empare d'une queue de billard qu'il transforme en lance. L'Allemand a compris ce que l'explorateur souhaitait lui faire entendre en se passant de mots. Il prend la plume et dessine sur la feuille blanche ses scènes de vie, seul témoignage pictural d'un monde qu'il n'a pas connu ou qu'il a découvert à sa manière, la preuve irréfutable qu'avant l'invasion de la Patagonie par les Argentins, les Telluèches étaient non seulement heureux, mais ils entretenaient avec les autres habitants de la Meseta des liens bien plus sophistiqués que ceux qui ont uni les militaires, les colons ou les opportunistes à cette région du monde qu'ils ont envahie. après avoir vu les Teluèches dans la réserve de Kamuzu à Ike, cantonnés sur un millième de leur territoire, sédentaires, victimes de l'interdiction de chasser le guanaco et le nandou, obligés de troquer leurs tentes contre des masures en adobe plus modestes que celles que l'on voyait dans les quartiers les plus pauvres des localités patagones, après les avoir vus devenir des ouvriers agricoles dans les estancias, des hommes silencieux qui baissaient la tête pour ne pas se faire remarquer, le portrait que Musters et Zwecker dressaient de leur existence à la fin du XIXe siècle, une vie perdue, me causait une souffrance indicible et faisait monter en moi une irrépressible colère. Je me disais que je devais me hâter de trouver le bison afin de rendre ma grande théorie plausible pour que le monde entier cessât d'ignorer ce qui était survenu, ce qui survenait et, pis encore, ce qui risquait de survenir si personne ne défendait ce peuple.
C'est pourquoi la dénonciation du colonialisme qui suivra rapidement cette découverte est particulièrement sévère dans le roman, notamment parce que l'Argentine continue encore aujourd'hui à nier l'extermination quasi totale des Tehuelches, comme des Mapuches, autres peuples autochtones présents en Patagonie. Ainsi, le parcours initiatique du narrateur sert de moyen pour dénoncer l'oppression européenne et mettre en valeur l'histoire d'un peuple dont il est partiellement originaire.
Festejando la conquista de ayer con mi propia bandera me robaron la fe los del Remington antes y sus leyes después
condamné
pisotearon mis credos forma de ser.
Ils parlèrent ensuite des Indiens et leurs propos me confirmèrent ce que j'avais vu et entendu lorsque je m'étais rendu à Kamuzu à Ike. La vie nomade des Teluèches était devenue impossible à cause des estancias que le gouvernement avait données aux éleveurs et fermiers. Ces derniers avaient divisé le territoire avec des barbelés, et si certains avaient eu pitié des Indiens et les laissaient chasser dans leur domaine, la plupart leur avaient interdit l'entrée car leurs chiens tuaient de nombreux moutons. Jiménez et Murch me confortèrent aussi dans l'idée que les réserves qu'on avait assignées aux Teluèches, non seulement Kamuzu à Ike, mais aussi celles des lacs Cardiel et Viedma, étaient des étendues dépourvues de points d'eau ou avec des eaux salées ou saumâtres, deux adjectifs que je n'ai jamais su différencier, et que les sols étaient argileux, sableux, un vocable que Murch utilisa à plusieurs reprises. Ils ajoutèrent que même ces terres pauvres et réduites risquaient d'être occupées. Quelques terrains l'étaient déjà, par des fermiers voisins, des gens sans scrupules qui disaient que les Indiens ne pratiquant pas l'élevage, cela leur donnait le droit de les délimiter et de les annexer à leur domaine. Le problème, conclut Jiménez, c'est qu'ils sont de plus en plus pauvres, qu'ils maigrissent de jour en jour et sont zidiques. Si on ne fait rien, ils vont disparaître, poursuivit Murch. Disparaître n'est pas le terme qui convient, dis-je. Ils sont des centaines à travailler en tant qu'ouvriers agricoles dans les estancias, aux postes les moins bien payés. Il y en a aussi dans les quartiers les plus démunis de Rio Gallegos et dans d'autres localités. Plus que disparaître, ils sont les plus pauvres des pauvres, les plus déclassés des déclassés. Ils représentent une main-d'œuvre bon marché et le monde, où que ce soit, a décidé qu'ils étaient invisibles. Quant à ceux qui résistent dans les réserves, ces quelques irréductibles, ils deviennent des pièces de musée auxquelles on consacrera un chapitre dans un livre d'histoire, comme si on ne pouvait ne parler d'eux qu'au passé. Il est clair qu'aujourd'hui, repris d'une voix tremblante d'émotion, à l'époque actuelle et sans doute à l'avenir aussi, les Teluèches continuent de peupler la totalité du territoire national de Santa Cruz, sauf qu'ils ne sont plus les Telluèches, mais de tristes ombres de ce qu'ils ont un jour été.
Lo que no me impusieron fue el color de la piel.
Les trois B de la colonisation. L'invasion par le sud ne mobilisa pas de militaires, écrivis-je. Quelques Européens barbus et malodorants, des escrocs sans scrupules, vivant à l'écart de leur village, des troupes perdues, parce qu'ils n'avaient aucune des qualités requises pour mener une existence civilisée, traversèrent la moitié de la planète pour arriver au bout du monde, ou ce que leur esprit étroit considérait comme le bout du monde. Ils espéraient faire fortune en chassant la baleine, l'otarie, la loutre, ou en cherchant de l'or dans les étendues boueuses de la terre de feu. Pour ces individus, le monde bouillonnait de cruauté et d'injustice, et abattre un andou ou un indigène ne faisait guère de différence à leurs yeux. Ils édifièrent de petits hameaux avec de petites granges où conservaient leurs provisions et de petits bordels aux pensionnaires flétris. De là, ils gagnèrent en puissance et étendirent leur domination sur tout le territoire, subjuguant les Indiens avec de l'alcool, les contaminant de leurs maladies ou les tuant simplement par centaines. Bouteilles, bactéries et balles, tels furent les trois B, qui en réalité étaient quatre si on ajoute la Bible, de la colonisation. La victoire la plus illustre ne consista cependant pas à déplacer des milliers d'individus, à les enfermer dans des camps de concentration ou à exterminer ouvertement des hommes, des femmes et des enfants mapuches, telluèches, selkmanes, yaganes et bien d'autres encore, mais à convaincre le monde entier que rien de tout cela n'arrivait, que les Argentins se contentaient d'occuper une région inhabitée qui avait paisiblement attendu leur arrivée. Ni Houdini, ni aucun magicien ou assistant de magicien de la planète n'aurait été capable de faire disparaître des millions de personnes par un double fond aussi élégamment que le gouvernement argentin s'y était pris pour gommer de la carte des nations entières, au nez et à la barbe du reste du monde, des peuples qui vivaient depuis la nuit des temps sur un territoire gigantesque qu'ils s'approprièrent de manière unilatérale, sans fournir la moindre explication, en décidant qu'il leur avait toujours appartenu. Les Argentins exerçaient leur tour de magie au moyen de mots. Le plan du pouvoir exécutif consiste à peupler le désert, disaient-ils. Les Indiens n'avaient jamais existé, et s'ils avaient existé, ils avaient disparu, ou il n'en restait que quelques-uns qui ne représentaient qu'un obstacle insignifiant. Quand les Indiens auront été exterminés ou dominés, christianisés et civilisés, le désert brillera comme une aurore rosée, affirmaient-ils. Les Indiens, invisibles, dépouillés de leurs conditions humaines.
Como me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. Con qué ley me juzgaron, por culpable de qué. De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez. ¿Qué conquista festejan que no puedo entender?
Cette colonisation espagnole débute au XVIe siècle et cessera avec les guerres d'indépendance des années 1810 à 1825. Cette colonisation lente, difficile, aboutit en partie à la disparition de peuples indiens et en partie au métissage de cette même population que l'on qualifie aujourd'hui de sud-américano-européenne. Enfin, cette colonisation est marquée également par les violences et les ravages de l'évangélisation, dont celle des Salésiens, ordre fondé par Don Bosco et vénérant Saint François de Sales, dont fait partie le narrateur du roman. Quant à l'auteur Fabian Martinez Icardi, il est à l'évidence concerné par ces thèmes. Il est né en 1964 en Patagonie, s'est nourri des légendes locales et a voyagé sur tous les continents. Il est aussi traducteur et journaliste. Enfin, il est l'auteur de nombreux récits et deux autres romans non traduits en français, Biesta Afuera, paru en 2013 et récompensé par des prix littéraires, et Margot N.L. Logue Cardiel, édité en 2017.
Alors Gérard, toi qui as choisi et réalisé l'habillage musical, que peux-tu nous dire de cette musique ?
Eh bien, il s'agit de la musique de la fierté mapuche et tewelche par des artistes descendant eux-mêmes de ces populations et ces cultures premières de Patagonie, décimées et détruites par la colonisation. Ce sont des artistes argentins très connus en Argentine, pays où certains responsables nient encore cet ethnocide. On a écouté successivement Karina Cariqueo, Mapuche et Tehuelche, qui chantent d'ailleurs dans la langue de ces deux peuples. Puis une pionnière de la réhabilitation de ces cultures, Aimé Painé, dont l'histoire se rapproche du héros du roman de Fabian Martinez Sicardi. Née en 1943 et morte trop jeune en 1987, fille d'une mère Tehuelche et d'un père Mapuche, elle est séparée à 3 ans de sa communauté et envoyée dans un orphelinat collège de religieuses, où elle apprend entre autres le chant grégorien et se passionne pour le chant et la musique. À 29 ans, elle décide de réagir contre le mépris et le racisme qui entourent ses origines et sa culture, et elle est la première femme mapuche à partir en tournée pour chanter dans sa langue avec l'habit traditionnel. Le troisième artiste est une formidable personnalité. Il s'agit de Ruben Patagonia, son nom de scène, tout un programme. Descendant de Tehuelches, c'est un artiste complet qui touche à toutes les musiques, même le rock, qui est acteur de cinéma et militant pour la défense des cultures premières. Il interprète, le mot est faible, il crie plutôt sa colère et sa peine dans une chanson « Amoutouille », Solitude, qui dit entre autres « Ils ont piétiné mes croyances et ma façon d'être. Ils m'ont imposé la culture et cette langue aussi. Comment j'ai été dépouillé sans raison? Avec quelle loi ils m'ont jugé coupable de quoi ?»
Pai, na iwanyi piuket, na iwanyi.
Vous venez d'entendre Béatrix Pichimalen chanter Piuman Nichao. C'est une chanteuse d'origine mapuche du sud de l'Argentine, Patagonie. Elle veut faire connaître le répertoire de ses ancêtres. Elle s'accompagne d'instruments traditionnels, beaucoup de percussions dans le cultrum, et interprète en mapudungun, sa langue traditionnelle, des chants sacrés, plusieurs fois centenaires. Pour elle, le chant mapuche est la voix de la terre, ce que signifie d'ailleurs le mot mapudungun, et son chant est destiné à la terre entière. Elle parcourt le monde entier, elle est même venue dans la région, aux nuits atypiques de Langon. La chronique cinéma.
Je vais vous parler d'un film de la réalisatrice argentine Lucrecia Martel, réalisé en 2017 et sorti en France en 2018. Il s'agit d'un film de fiction dont le récit se déroule à la période coloniale, à la fin du XVIIIe siècle. Il s'intitule Zama. Les trois premiers films de Lucrecia Martel, La Ciénaga, La Niña Santa et La Femme sans tête, sont des portraits de la bourgeoisie argentine des années 2000. Réalisatrice exigeante et soucieuse des moyens mis en œuvre pour la mise en scène de ses films, il lui a fallu près de 10 ans pour parvenir à produire et réaliser Zama. Ce film est l'histoire de Don Diego de Sama, un fonctionnaire d'une colonie espagnole qui attend une lettre du vice-roi l'autorisant à retrouver sa famille et à quitter une terre qui l'étouffe. Ce transfert est indéfiniment repoussé, ce qui plonge Zama dans la folie. Don Diego de Sama est un corregidor. Les corregidors sont des représentants du pouvoir royal dans les colonies. Ils sont des magistrats chargés de diriger les communautés indigènes et de juger les procès organisés dans leur juridiction. Le film montre l'organisation du pouvoir colonial. Zama est sous le commandement d'un gouverneur qui répond au vice-roi du Rio de la Plata, qui lui-même reçoit ses ordres de la couronne d'Espagne. Ces strates bâtissent une administration coloniale dont Zama est un fonctionnaire, certes homme de pouvoir sur son territoire, mais dépendant de la volonté du roi, à l'image de la longue attente qui lui est imposée pour obtenir son transfert. Ce n'est pas pour banaliser le rôle des agents du colonialisme que le film se plonge dans l'organisation du système colonial. Une dispute entre Zama et son adjoint à propos du statut des colonisés donne vie à une contradiction au sein du système. Une famille de colonisateurs qui se sentait menacée par les indigènes qui vivaient autour de chez eux a exterminé ces derniers et se rendent dans le bureau de Zama pour lui demander une concession de 40 indigènes en compensation. Alors que Zama accepte d'appuyer leur demande auprès de sa hiérarchie, le magistrat assistant estime que le statut des colons ne légitime pas que des natifs soient privés de leur liberté. La mise en scène de Lucrecia Martel est somptueuse, alternant des cadrages très serrés et des plans composés comme des tableaux. La profondeur de champ, travaillée à partir d'ouvertures comme des portes ou des fenêtres, qui créent des surcadrages, fait exister dans le même plan des personnages de conditions différentes. Cette représentation fine de l'espace colonial établit des rapports variés selon des individus qui ne sont pas filmés uniquement selon des rapports de domination. Une scène de voyeurisme donne par exemple l'occasion aux femmes indigènes épiées de se moquer de Zama. La domination n'est pas absente, mais elle est tue. Zama explique avoir un enfant avec une indigène, sans rien ajouter, sur la nature de leur relation. L'originalité de Zama est de donner à voir ce que l'on voit peu dans les films historiques, l'envers du tableau en quelque sorte. Comme lorsqu'une dame demande à sa servante de lui arranger sa perruque qui lui fait mal. Le récit du film n'est pas linéaire, le rythme est souvent heurté, les dialogues dissonants et la caméra ne suit pas les mouvements des personnages, ce qui donne l'impression que Lucrecia Martel filme une réalité en train de se dérouler devant la caméra plutôt qu'une époque reconstituée. De toute manière, Zama n'est pas un film d'histoire qui viserait la reconstitution d'une époque à partir des crises historiques, mais une adaptation d'un roman du XXe siècle, œuvre et éponyme de l'écrivain argentin Antonio Di Benedetto. Martel explique avoir plutôt tenté de reconstituer l'esprit du roman, et dit, je cite, « Nous n'avons pas hésité à inventer notre XVIIIe siècle. Davantage qu'une fidélité historique, Zama vise un effet de réel. Les époques des lieux qui servent de décor sont variées. Les édifices religieux ne sont pas toujours utilisés pour représenter des bâtiments religieux. C'est ce que l'architecture évoque qui est le plus important. Autre exemple, les costumes des officiers de la couronne sont inspirés d'éléments de la cour française, alors que ce n'était pas le cas dans les colonies espagnoles au XVIIIe siècle. » Zama place son protagoniste dans une posture existentielle, celle d'un homme qui vit dans l'attente. Celle-ci est autant causée par une absurdité bureaucratique qui rend le film kafkaïen que par un abus de pouvoir du gouverneur. Tout au long du film, Zama semble subir ce qui lui arrive, et, sans que l'on en comprenne la cause, qui n'est pas d'origine administrative, il perd peu à peu son pouvoir. Ce sont ses privilèges d'homme blanc qui chutent également, il perd sa demeure, les femmes refusent ses avances, il est moqué tant par les blancs que par les indigènes. À travers ce parcours fictif, le film pointe un système colonial qui s'appuyait sur des fonctionnaires à la recherche d'un pouvoir et d'une ascension sociale, vantant l'illusion d'un mérite alors que tout cela ne repose que sur l'arbitraire royal. Zama est l'adaptation d'un roman dont la narration est à la première personne, mais Lucrecia Martel refuse de transposer celle-ci en voix off. À la place, elle fait porter les pensées de Zama par d'autres personnages, donnant une sensation d'étrange projection, comme s'ils entraient à l'intérieur des pensées de Zama. Au début du film, un enfant lui chuchote les récits légendaires qu'on raconte à son propos. Cette étrangeté traverse tout le film. La mise en scène de Lucrecia Martel bouleverse les repères. Les personnages ne sont pas toujours au centre des cadres. Celui qui parle est parfois hors champ. La maladie y est omniprésente. Elle vient des bateaux. Les hommes meurent de la peste ou du choléra. La fièvre qui touche Zama est de plus en plus forte, jusqu'à le faire basculer dans la folie. Cela va de pair avec la dernière partie du film où Zama traverse des territoires où les blancs ne dominent pas. Ces espaces où les colons ont peur des natifs. Ce voyage au cœur de la folie rappelle évidemment l'œuvre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Elle aussi description vertigineuse du colonialisme. L'esthétique de Zama navigue quant à elle du côté d'Apocalypse Now, l'adaptation du texte de Conrad par Francis Ford Coppola. Ce sont des œuvres du XXe siècle qui nourrissent Zama, film d'une surprenante modernité, fondamentale de l'écriture de l'histoire coloniale du pays de sa réalisatrice, Lucrecia Martel.
Parole de libraire. Bonjour, nous sommes sur la place du marché des Chartrons, devant la librairie olympique, où nous allons rencontrer Jean-Paul Brussac. Bonjour Jean-Paul Brussac, pouvez-vous vous présenter et nous raconter vos premiers pas de libraire qui remontent à un certain temps?
Oui, alors donc, je m'appelle Jean-Paul Brussac, la librairie a 35 ans. 1989, elle a 35 ans. Elle s'appelle la librairie olympique parce que quand j'ai eu le projet et l'idée de monter la librairie, comme un bébé, je cherchais un nom, un prénom. C'était très compliqué, j'en avais beaucoup, mais aucun étant décisif. J'ai pris mon vélo, je suis parti en Grèce. Et j'ai passé un mois et demi à pédaler dans le Péloponnèse, à travers les grands sites grecs, pour me donner un peu de force et de courage, j'imagine, en tout cas pour me donner du poids et de l'épaisseur. Et je suis allé, vous imaginez la suite, je suis allé à Olympie, et c'est resté dans ma tête. Mais la chose absolument décisive, je crois, alors c'est psychanalytique, je vous préviens, mais je peux penser que c'est ça. Donc j'avais toujours pas de nom dans la tête, et je suis passé en voiture un jour à Villeneuve-d'Ornon, et à Villeneuve-d'Ornon, j'ai vu un panneau « Piscine olympique ». Moi, venant d'Olympie, dans le site olympique, à Villeneuve-d'Ornon, on va avoir une piscine olympique, je me dis que c'est pas possible. C'est une blague. Et je me suis arrêté, et puis je me suis dit, mais quand même, c'est bizarre que ces gens appellent ça olympique. Et j'ai compris, c'était le grand moment des grandes entreprises, des grandes enseignes, les Fnac, les grosses boîtes, avec les banques et tout un système derrière très complexe et très efficace. Moi, j'avais aucun système complexe ni efficace. Et je me suis dit, mais après tout, il faut faire les choses, même si on n'est pas au même niveau. L'important, c'est de faire et d'y croire et d'exister. Donc je me suis dit, c'est un nom qui me va, et puis on fera avec ce nom, et puis les gens feront avec moi. Voilà.
Et vous aviez une formation de libraire ou pas?
Alors, c'est oui et non. Vous n'avez pas tort. En fait, ce qui est, comme toujours, ce qui est décisif, c'est ce qui se passe dans l'enfance ou dans la jeunesse. Quand j'habitais Paris, il y avait une librairie mythique qui s'appelle Shakespeare and Company, où j'allais tous les jours jouer aux échecs avec les artistes américains qui passaient. Et le monsieur, qui était âgé de mémoire, il restait ouvert tard, 10h, 11h du soir. Enfin, il avait des horaires très élastiques. Et je faisais partie des meubles et je gardais. Et il m'est arrivé plusieurs soirs, il partait, je gardais la librairie, j'encaissais un peu. C'était du bénévolat. Hein. Mais c'est une ambiance tellement étonnante, tellement singulière, tellement amicale, parce qu'il me faisait confiance, j'aurais pu prendre la caisse, j'aurais pu prendre des livres, tout était comme ça. Et c'était donc un moment de jeunesse qui était, comme beaucoup de jeunesse, douloureux ou en souffrance, était un éclairage singulier, et puis beau, et puis magnifique. Et c'était un grand bonheur. J'ai découvert un peu la joie et le bonheur de vivre dans cette librairie avec ses livres et cet entourage. Et quand je suis parti de Paris, je me suis dit, j'ai gardé dans ma tête l'idée qu'un jour, peut-être, avec bonheur, je monterai une librairie. Et on en termine là. C'est une histoire vraie, pour conclure. Quand ma femme a annoncé qu'elle était enceinte, à 39 ans, je crois. Je me suis dit, cet enfant, il vivra dans une librairie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir, de trouver le lieu, d'ouvrir une librairie, en me disant, même si ça ne dure qu'un an ou deux, au moins il aura... Voilà.
Très bien. Et puis, voilà. Très bien.
Avez-vous des domaines dans cette librairie où vous êtes particulièrement attaché?
Alors, cette librairie est connue et reconnue pour un moment, pour un département singulier qui est la poésie. Alors, si vous voulez, c'est pas forcément très astucieux de ma part ou très vendeur, parce que la poésie, c'est un domaine difficile, c'est un domaine avec peu de rotation, qui a des avantages, je vous en parlerai après. Donc elle est connue et reconnue parce que j'organise tous les ans le marché de la poésie à Bordeaux, et donc ce rayon est exceptionnel. C'est tout ça, c'est un quart de la librairie. Donc évidemment, entre-temps, je me suis pris d'amitié avec des poètes, avec des éditeurs, ce qui fait que mon rayon s'enrichit régulièrement. Et on va revenir encore à l'enfance. Et il se trouve qu'à l'âge de, peut-être un peu plus tard, vers 21 ans, 22 ans, j'ai rencontré un poète qui s'appelle Robert Genzo, qui est un poète qui écrit en langue française. Il y a un prix Genzo maintenant, il est décédé ce monsieur, il y a un prix Genzo de poésie. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup impressionné. J'allais chez lui, il habitait à côté du musée de l'Homme, j'allais chez lui le dimanche, de mémoire, 3 ou 4 dimanches, je suis allé chez lui pour discuter avec lui, il me lisait ses poèmes, il me parlait de sa poésie. Et pour un jeune garçon qui arrivait de Bordeaux, qui n'avait pas de point de référence, c'était extraordinairement impressionnant et émouvant d'être avec cet homme âgé qui me parlait de lui, qui me parlait de la poésie. Et donc là encore, ce lien a continué à filer. Et c'est pour ça que cette librairie, la première chose... Ah, c'est d'ailleurs la première chose, tiens, c'est vrai. Quand je l'ai monté le premier jour, j'ai mis sur la vitrine un de ses poèmes.
Très bien. Alors, est-ce que vous avez... Alors on a compris que votre poésie était généraliste, mais quand même spécialisé dans la poésie, c'est donc une entrée pour vous. Est-ce que vous avez, par rapport à ça, alors un rôle un peu social, un peu culturel dans le quartier?
Alors, oui, nous avons... Alors, là, ça devient un peu combatif. Nous avons, lorsque la mairie avait décidé comme projet étonnant de détruire la halle des Chartrons pour en faire autre chose... nous avons monté avec 2 ou 3 amis l'association culturelle du marché des Chartrons, en disant à la mairie, vous n'allez pas détruire ce marché, vous n'avez aucune idée de le remplacer par quelque chose, donc nous on a monté une association et on va vous proposer une animation à l'année gratuite pour voir ce qu'on peut faire dans ce lieu. C'était un endroit bizarre, hein. Les Chartrons étaient un endroit qui partaient à volo, il ne se passait rien, c'était des personnes, habitaient les personnes âgées, aucune animation. Il y avait le cours portal qui était l'artère principale et la veine commerciale, mais si on enlevait le cours portal, rien se passait, rien. Donc on a dit nous, et donc pendant 2 ans, j'ai proposé des animations, des expositions, du théâtre. On faisait comme on pouvait, on n'avait aucun budget, hein. On faisait comme on pouvait. Et les gens ont commencé à venir, ce qui fait que ça a pris un peu de poids. Et donc j'ai été voir M. Juppé en lui disant, écoutez, il faudrait faire... Moi, il y a un lieu intéressant qu'il faudrait rénover, mais on a un projet de faire un marché de la poésie tous les ans, en faisant venir des personnes, des personnalités. On pourrait faire quelque chose de très dynamique et très éclairant. Bon, il m'a dit qu'effectivement, ça l'intéressait. Donc nous avons eu... toujours pas de budget, mais on a eu une aide de la mairie logistique, ouais. Des chaises, des tables, la sonorisation, et on a commencé là. Donc, alors, c'est pas forcément glorieux de ma part, c'est parce que de toute façon, le coportal ne voulait pas un marché, parce qu'il voulait faire le marché des grands hommes. Ouais. Donc, il voulait pas le marché des grands hommes, quiconque en serait leur magasin. La rue Notre-Dame ne voulait surtout pas d'un magasin de meubles parce que sa concurrence est le magasin de meubles. Donc la mairie se retrouve avec un objet au milieu, central, dont personne ne voulait. Et on ne savait pas quoi en faire. Donc ils ont fini par dire, bon écoutez, comme on ne peut rien faire là-dedans, on va reprendre à l'identique. Donc ils ont fait, comme en 1890, la même chose, sauf qu'ils ont mis des verres pour bloquer les entrées. Et à partir de là, on a eu les clés et on a fait tous les ans, depuis 25 ans maintenant, 26 ans, on a fait ce marché de la poésie. Et puis on a fait des expositions et on a fait du théâtre. Et maintenant, c'est l'avenir. Ça semble bouger parce que les choses n'étaient pas si belles que ça, puisque quand ça a commencé à fonctionner, j'ai dit à la mairie, il faut absolument que ce lieu soit identifiable, identifié. Donc il faut nous laisser, on va essayer avec deux ou trois associations, de faire une programmation à l'année pour que ça soit clair pour les gens. La hauteur, l'ambition, la hauteur, la qualité. Après, les gens jugeront si c'est haute qualité, ils jugeront. Mais il faut absolument l'identifier, sinon il ne se passera rien. La mairie a trouvé que je prenais un peu trop de place. On dit, écoutez, monsieur, on va gérer nous. Vous l'aurez une semaine pour la poésie et puis après, on fera. Donc, ils ont fait à peu près tout ou rien. Ce qui fait que c'est devenu pas identifiable. Donc c'est ni exposition ni exigence, enfin c'est un peu tout le monde peut s'y installer, ce qui fait que personne n'y va.
D'accord.
Et donc attention, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire hier, alors c'est peut-être un discours politique, j'espère que non, ils ont compris que c'était un vaisseau amiral et la mairie est venue me voir, Monsieur Blanc, le maire du quartier, en disant on compte sur vous pour effectivement éclairer ce lieu et en faire quelque chose enfin de repérable et d'exigeant et que ce soit un lieu culturel bordelais comme notre lieu culturel. Mmh. Alors voilà.
Très bien. Si.
Et est-ce que vous pourriez nous indiquer un ou deux titres de livres qui montrent une lutte contre les oppressions?
Contre les oppressions. Il faut commencer par vous parler d'un livre de Violaine Béraud qui s'appelle Nuit de noces, qui est un texte magnifique sur l'amour des parents. En fait, ce n'est pas si simple, et c'est pour ça que je garde votre sujet, votre proposition. Le père est un homme, elle raconte ça comme ça, c'est un homme violent qui impose à ses enfants une espèce de garde à vous et de rejet et de la beauté et de la liberté. Et cet enfant va se réfugier dans l'amour, dans un amour absolu et immense. Et c'est une tentative, c'est un très long poème. C'est presque une odyssée sur un couple tellement impossible, tellement amoureux que ça va être le déroulement de toute une vie en 50 pages. C'est un texte extraordinaire.
Alors merci beaucoup pour votre accueil et puis pour tout ce que vous avez dit de particulièrement passionnant. Et je crois que finalement vous avez aussi une petite annonce à nous faire, notamment pour tous ces gens qui sont très attachés à votre librairie olympique.
Oui, alors je peux vous l'annoncer maintenant, le secret est tombé. Donc en juin, je pense que vous verrez Marie à ma place, ou en juillet, et qui vous conseillera des livres. Peut-être que si on se croise dans la rue, je pourrais continuer parce que je vais continuer à lire. Mais voilà, donc elle est plus jeune que moi et sans doute qu'elle a un dynamisme que j'ai moins. Et tout ça fait que, grâce à elle, je crois que la librairie va se prolonger et va se dynamiser.
Merci bien en tout cas.
Merci à vous, bravo.
Bravo à vous. La chronique art de Sarah Vellu.
Martha Minourine est l'une des pionnières de la culture pop art. Née en janvier 1943 à Buenos Aires, en Argentine, elle vient d'un milieu bourgeois grâce auquel elle est confrontée dès son plus jeune âge au monde de l'art. Ainsi, elle intègre des études artistiques et sort diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Buenos Aires en 1961. Elle débute par la pratique de la peinture, futuriste, inspirée par de célèbres compositeurs de musique, comme dans sa toile abstraite, Musique aquatique de Handel, peinte en 1960, sur laquelle elle propose un jeu de couleurs et de transparence. Elle part à Paris grâce à une bourse du Fondo Nacional de las Artes et y découvre une sensibilité pour les installations, comme ces structures habitables en couverture et matelas trouvées dans les décharges des hôpitaux de Paris en 1962. Elle y découvre aussi le happening, un art éphémère qui ne laisse que quelques traces, souvent photographiques, de son existence. Ainsi, elle organise en 1963 la destruction, avec Christo, un événement durant lequel elle brûle toutes ses œuvres rassemblées, orientant son travail vers des pistes de réflexion autour de la sacralisation de l'art et la porosité des frontières entre l'œuvre et le quotidien. Elle part ensuite à New York, grâce à une bourse de la fondation Guggenheim cette fois-ci. Elle y fréquentera Andy Warhol et lui offrira, dans sa factory en 1985, un tas d'épis de maïs considérés comme l'or de l'Amérique latine, pour rembourser symboliquement la dette extérieure du pays. Les photos de cet happening les montrent tous les deux, dos à dos, assis sur des chaises posées sur cette pile de maïs. Ce n'est pas la seule dette d'État que Martha Minorine va rembourser symboliquement. En 2017, elle offre des olives à un sosie d'Angela Merkel pour rembourser celle de la Grèce. Grâce à la symbolique du sosie de chef d'État, elle rendra les îles Malouines à l'Argentine en les achetant à un sosie de Margaret Thatcher en 1996. De retour à Buenos Aires, elle partage son bagage culturel, souhaitant, selon ses mots, importer la culture hippie new-yorkaise en Argentine, elle réalise l'exposition Importation-Exportation à l'Institut d'ITEA. Arabesques phosphorescentes, films et posters rapportés de ses années aux États-Unis, boutiques de produits symboliques du mouvement hippie font partie de l'événement, un happening proposant une expérience complètement immersive qui peut aussi interroger sur l'aspect mercantile de l'art. Désireuse d'inclure son public dans ses œuvres, elle fait reproduire, en 1979, l'obélisque de Buenos Aires en pan dulce, sorte de brioche, dont le public est autorisé à manger des morceaux. En 1983, elle fait élever le Parthénon de Livres, un édifice constitué de plus de 30 000 livres pour célébrer le retour de la démocratie en Argentine après la dictature militaire entre 1976 et 1983. En 2017, à l'occasion de la Documenta, Martha Minorine crée une œuvre qu'elle qualifie, je cite, comme « la plus grande, la plus géniale et la plus politique de sa carrière ». Inspirée par son premier Parthénon de livres, réalisé 38 ans plus tôt, elle en réalise un nouveau, cette fois-ci rassemblant des livres du monde entier, ayant été interdits par des gouvernements à un moment de l'histoire. Ce sont 100 000 livres qui reconstituent l'édifice sur la place de Kassel en Allemagne, place sur laquelle les nazis ont brûlé lors des autodafés de 1933. Les livres seront, à la fin de son installation, donnés aux spectateurs ou à des bibliothèques publiques. Todo es arte, tout est de l'art, c'est la devise de Martha Minorine, dont la plus grande partie de sa vie fut consacrée à rendre son art accessible, voire même parfois comestible.
Ainsi se termine l'émission de ce jour. Merci à nos chroniqueurs, Sarah et Paul, et merci à Gérard, que vous retrouverez d'ailleurs mercredi 1er mai pour une émission enregistrée pour permettre à Gérard, notamment, mais aussi à tout le monde, de venir manifester à partir de 10h30, place de la République.
La veille, mardi 30 avril, vous pourrez entendre à 13h Jean-Pierre Lefebvre pour son émission Histoire de voir, histoire au pluriel.
Et c'est le mercredi 22 mai que nous vous proposerons une nouvelle émission d'un moment de littérature émancipatrice.
D'ici là, nous vous souhaitons d'excellents moments, riches en lecture, bien sûr.